Eh bien, nous y voilà. Bonsoir tout le monde. Mercredi 20 mai 2020, 18h30. C'est l'heure de votre pause lecture. C'est l'heure du Facebook Exilium. Aujourd'hui, c'est le 21e opus, 21e soir que nous passons ensemble. Ben, je suis très heureux de pouvoir vous retrouver. Et si jamais vous écoutiez ce live en rediffusion, eh bien écoutez, je suis tout aussi heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous passons à la troisième partie du chapitre 11, durant lequel, vous en souvenez certainement maintenant, notre personnage Frédéric est en grande conversation avec l'abbé qui lui explique un peu, enfin même beaucoup d'ailleurs, en quoi consiste son rôle de meneur, et le fait un petit peu réfléchir sur certains aspects de la vie et sur sa façon également de considérer l'inconnu. Alors, nous allons commencer la lecture tout de suite, et puis ensuite, je saluerai ceux qui auront laissé quelques messages, parce que je ne peux pas, moi, savoir qui est connecté. Donc, je ne pourrai le savoir que si vous me laissez un message. Allez, je passe maintenant au résumé de la lecture précédente, pour vous remémorer ce qui s'est passé hier. Allez, c'est parti, et puis on se retrouve tout à l'heure. Résumé de la lecture précédente. À l'abbaye de Noirlac, la formation de meneur sous la forme d'une conversation entre l'abbé et Frédéric se poursuit, en même temps que la visite commentée des lieux. Frédéric reçoit un petit cours d'histoire sur le rôle de refuge pour les gâtis tenu jadis par l'abbaye de Noirlac, avant qu'elle ne soit saccagée par le chef des écorcheurs, un certain Étienne de Vigeol, un grand chasseur de légatis. Mais Frédéric retient surtout que des bibliothèques interdites au public servent de coffre-fort à d'anciens documents dans lesquels a été couché l'essentiel de la connaissance sur les légatis. Et l'abbé lui promet qu'au moment opportun, il aura accès à toute cette connaissance, qui est un privilège des meneurs. Exilium, livre 1, chapitre 11, troisième partie. Nous sommes toujours le samedi à l'abbaye de Noirlac. « Monsieur, comment est-ce que vous avez connu Guilhem et Kevin ? Ils sont venus vous voir en Allemagne ou, enfin, comment vous êtes rencontrés, en fait ?»« Mon cher ami, de la même façon que pour la plupart des légatis. Dans leur second état, ils se communiquent les informations l'un à l'autre à une vitesse surprenante. Je descends de temps à autre à Noirlac, mais ils n'ont pas besoin de véhicule pour se déplacer sans se faire remarquer. » Je les soupçonne même de faire quelques escapades de votre dortoir la nuit. Ah ben, manquerait plus que ça. Mais bon, avec ce que j'ai vu, je les en crois capables. Enfin, j'espère quand même qu'ils se montrent raisonnables et n'abusent pas de leurs conditions. Sinon, je vais leur souffler dans les bronches, moi, tous les gâtis qu'ils sont. Au lycée, ce sont pour moi des élèves. Avant tout. Après, le reste, on avisera. Moi, ne soyez pas intraitable, Frédéric. Ils ne font que répondre à l'appel de la forêt. même s'ils contrôlent leur processus de transition et les nouvelles sensations qui les accompagnent, ils ne doivent pas en faire abstraction pour correspondre aux exigences de ce monde étriqué qui ne reconnaît pas encore leur existence. Les meneurs comme vous, qui opèrent dans un contexte de vie en communauté, cherchent à faire la part des choses, à individualiser les comportements. Vous n'avez pas été choisi au hasard, cher ami. Et les décisions que vous aurez à prendre au lycée ne seront pas toujours les mêmes quand elles devront s'appliquer aux légatis, mais vous vous en rendrez compte bien assez rapidement. Moi, vous savez, je ne serai pas toujours au lycée, hein. Dans quelques petites années, je serai remercié comme tous les assistants d'éducation. Remercier et puis oublier très rapidement également. Oh, s'inquiéter du lendemain n'a jamais allongé la durée de vie. Occupez-vous du présent, il y a suffisamment à faire. Par exemple, tant que vous êtes au lycée, soyez attentif aux élèves en situation scolaire difficile. Ah bon? Et pour quelles raisons particulièrement eux? L'échec scolaire n'est pas une fatalité. Il n'est que l'aboutissement d'un enchaînement de circonstances plutôt pénalisantes pour l'élève. Les légatis sont très sensibles à cette situation et la discrétion permanente qu'ils doivent s'infliger contraint certains à l'introversion. Bah, ce fut le cas de Nicolas Tenet, que Mathilde a connu. D'autres vont même jusqu'à ne côtoyer aucun autre légatis, convaincus qu'ils ne sont comme eux que des erreurs de la nature. Un peu comme l'oiseau né en cage qui pense que voler est une maladie. C'est alors votre rôle de remarquer ces élèves afin de les amener à reconsidérer leurs conditions. Et par la même occasion, délester leur charge émotionnelle. Et c'est aussi désormais votre responsabilité, Frédéric, d'effacer les traces des dégâts que pourraient infliger les légatis dans leur état second. Ou, plus simplement, de les dissuader d'être trop bavards sur leur compte. Mais bon, je vous rassure, ces situations restent marginales. Oh là, oh là, oh là, oh là, vous me faites un peu peur là. Moi, je suis ni assistant social, ni psychologue, je n'ai aucune formation de tout ce qui commence par psy, quelque chose. Ne vous inquiétez pas. Le cœur suffit pour mener à bien votre attribution qui n'a rien d'une contrainte. À moins, bien entendu, de faire une allergie à l'humanisme. Cessez d'avoir peur de ce qui n'est pas. Est-ce que vous rechignez à rouler en voiture par peur de l'accident? Est-ce que vous refusez de vous alimenter par peur des intoxications alimentaires? Ben non, bien sûr que non, sinon autant s'enfermer et rester chez soi. Eh bien, je vous parle de ce même niveau de probabilité. Vous êtes toujours, aujourd'hui, héritier d'un privilège convoité dont certains ont pourtant abusé. Le proviseur, pour ne parler que de lui. Ne voyez pas la nouvelle charge qui vous incombe comme un poids, mais comme ce qu'elle est réellement une bénédiction. Les légatis vous estimeront sans que vous ayez à solliciter leur respect. Et ils vous respectent déjà, d'ailleurs, parce que c'est dans leur nature, tout simplement. Maintenant, à vous de dénicher ce qui se cache. Mais pour tout vous dire, je ne suis pas convaincu qu'au lycée, il y en ait beaucoup plus que ce que vous connaissez déjà. Mais qui sait? Mais comment est-ce que je peux réparer des légatis parmi plusieurs centaines d'élèves? Et puis bon, les élèves introvertis, c'est pas non plus ce qui manque, hein. Pour faire le tri, ça va pas vraiment être facile. Écoutez, Frédéric, soit vous demandez au gardien qui a été choisi pour vous épauler, gardien Guilhem, lui-même. Lui-même. Ou alors vous faites appel à votre jugement et votre sagacité, ou, j'ai beaucoup mieux, vous faites appel à votre intuition. Oh là là, mais c'est un programme pour Superman, ça c'est pas pour moi, dites donc. Oh, Frédéric, cessez de vous sous-estimer de la sorte. Prêtez plutôt attention aux comportements que les individus, sans réflexion, qualifient arbitrairement de bizarres. Oh, bien souvent, ces comportements étiquetés d'étranges ne sont que des appels à l'attention. Vous voulez des indices? Eh bien écoutez, c'est pas de refus, monsieur. Quelques indices me seraient bien utiles. Ben écoutez, premier indice, ça commence par un simple bonjour de la part d'un élève, de la part d'un élève, et puis ça se poursuit sur un ça va? Dans ce genre de contexte, attrapez la balle au vol, s'il est manifeste qu'on vous envoie cette balle. Et ça sera ensuite à vous de diriger la conversation pour déterminer la nature de la communication qui essaie de s'installer. Sachez que vous serez de toute façon en situation d'infériorité. Ils sauront qui vous êtes, et non l'inverse. Mais s'ils sentent que vous n'avez pas la sagacité nécessaire pour les orienter sur un terrain plus productif, une conversation sur la météo, ah, il ne faut pas compter sur eux pour vous aider au premier contact. Même s'ils ne vous freineront pas, je vous rassure, ce ne sont pas des ennemis. Mais pourquoi cela n'irait pas au but si les légatis savent que je suis meneur, s'ils communiquent entre eux, s'ils se transmettent des informations, s'ils savent que je suis meneur, pourquoi est-ce que le prochain qui va venir me voir n'irait pas droit au but? Ah, Frédéric, Frédéric. Ça fait aussi partie du jeu d'interaction entre le meneur et le légatis. La nature entière nous offre quantité d'exemples où aller droit au but permettrait de gagner du temps dans la relation, mais la séduction et la subtilité font partie intégrante de la vie et alimentent son charme. La vie est parfois facétieuse. Et puis, c'est un bon exercice également pour mettre à l'épreuve votre intuition. Je tentais une pause. Oh, la première depuis notre visite de l'ancien dortoir des moines. Puis, je me grattais la tête pour tenter de démêler ce flot de nouvelles informations qui s'entrechoquaient dans mon cerveau un petit peu dans tous les sens. Vous savez, je n'aurais jamais imaginé que découvrir un nouveau monde soit si complexe. Ça oblige à détricoter un peu ma façon de penser. J'ai l'impression que ça demande beaucoup de réflexion, tout ça, mais bon, c'est vrai que ça m'arrive un peu d'un coup, donc c'est peut-être un peu normal que ça se mélange. De la réflexion, Frédéric? Pourquoi limiter votre travail de découverte à la réflexion? La réflexion n'est qu'un travail cérébral lourd, mais partisan. Je comprends pas ce que vous voulez en venir là. Vous me demandez de pas réfléchir, je ne vois pas ce que vous voulez me dire. Les êtres humains communiquent et interprètent la réalité dans laquelle ils vivent avec cinq sens qui n'ont qu'une seule fonction: naviguer dans le monde matériel qui les entoure. Et pourtant, ces sens sont si réducteurs qu'ils ne permettent même pas d'évaluer les puissances et les forces auxquelles ils sont soumis à tout instant. Alors faites l'effort conscient de sortir de votre esprit toutes les idées qui ont la force de l'évidence parce qu'elles sont conformes aux apparences. Et vous n'y parviendrez qu'en écoutant ce sixième sens qu'est l'intuition. Oh d'ailleurs, ne l'ai-je pas déjà évoqué tout à l'heure? Mais je comprends pas, l'intuition ça se commande pas, c'est un truc qui vous arrive comme ça, on sait jamais pourquoi, on sait jamais comment, paf, ça, c'est comme un pop-corn qui pète, c'est, voilà, c'est brutal, c'est d'un coup. Mais, cher ami, si l'intuition vient comme ça, comme vous dites, c'est parce que l'information est ressentie brute. Votre cerveau, quant à lui, il analyse, il épluche, il interprète en puisant dans sa banque de données. Mais le résultat sera toujours faussé parce que il ne dépendra que des données qui lui sont disponibles pour la comparaison et le traitement. Votre cerveau n'a aucun contrôle, quant à lui, sur votre intuition. Et c'est votre intuition qui vous révélera ce que vous devez savoir sur le monde des légatis, qui, eux, bénéficient d'un mode de fonctionnement basé sur l'intuition, une fois bien sûr qu'ils sont dans leur état de post-transition. Mais comment je peux maîtriser cette intuition? Si je veux mieux comprendre les légatis, ça me semble un peu abstrait quand même pour moi tout ça. Cher ami, prêtez-y attention tout simplement. Ah, vous finirez par vous en faire une alliée de premier ordre. Mais ne suivez pas les individus qui se disent intuitifs mais ne font que convertir du raisonnement, aussi brillant soit-il d'ailleurs. L'intuition ne se commande pas, ne se maîtrise pas et ne se développe pas. Elle s'impose à vous et ne vous propose qu'une simple alternative: l'écouter et la suivre ou l'oublier. Mais alors qui est à la source de cette intuition? Qui la dirige puisqu'elle s'impose d'elle-même? Ah, très cher ami, l'être humain est une merveille de mécanique qui se suffit elle-même. La technologie n'est qu'un artifice et ne rend pas l'homme meilleur, vous savez. Il y a tout en vous pour communiquer et comprendre le monde qui vous entoure. Et les légatis l'ont compris avant tout le monde. Même s'il est vrai, ils ont des atouts qui leur permettent d'aller un peu plus en avant que nous. Mais justement, pour en revenir aux légatis, est-ce qu'il y a des sujets de conversation plus propice que d'autres pour les révéler sans forcément attirer l'attention? Oh, les légatis en savent bien plus que leurs aînés sur des points que la science pense seulement avoir compris, mais a pourtant établi comme des faits, surtout dans le domaine animal. Cela provoque parfois des échanges animés, voire musclés avec les professeurs, qui eux ne font que transmettre ce que les manuels leur présentent finalement. Bah écoutez, je me vois mal faire un sondage auprès des professeurs du SVT pour obtenir la liste des SVT avec des élèves avec lesquels ils se sont pris le bec. Y a pas un moyen plus simple de repérer les légatis? Considérez leur niveau de sensibilité. un niveau de sensibilité à la justice qui est bien plus élevé que la moyenne. Ah oui, ça, je m'en suis rendu compte quand j'ai discuté avec Guilhem et Kevin dans le dortoir. Eh bien, voyez-vous, cher ami, dans les cas extrêmes, surtout ceux qui sont livrés à eux-mêmes, il est des légatis qui choisissent de quitter la société pour laisser la nature prendre soin d'eux. Et une décision qui peut s'avérer dangereuse et altérer leur personnalité s'ils ne repassent pas à l'état normal de temps en temps. Mais ils sont heureux ainsi. Cette nouvelle vie leur permet de dépasser les limitations qu'impose leur faible nature humaine. Mais si des légatis en arrivent à ce point à vivre tout seul, puis à rester. Enfin, je sais pas, ils vivent de quoi, ils peuvent pas, on peut pas s'isoler comme ça. Comment ils vivent, cher ami? Mais comme les animaux, ils chassent. Qu'est-ce que vous me dites là? Ils chassent, c'est-à-dire qu'ils doivent tuer pour se nourrir, comme les animaux sauvages? Mais cher ami, vous pensez que la vache qui a fourni le steak du bébé dont vous parliez tout à l'heure dans votre illustration est toujours vivante? Mais c'est que je me vois pas du tout. Enfin, j'arrive pas à m'imaginer Guilhem et Kevin en train de chasser et tuer des animaux. Au contraire, ils les adorent, les animaux. Mais Guilhem et Kevin n'en ont pas besoin. Nous parlions des rares cas où certains légatis quittent la société humaine. Ils peuvent manger la même chose qu'avant, mais les bananes et les pizzas sont bien plus rares en forêt, vous savez. Et puis une fois transformés, les légatis sont de toute façon au-dessus de la chaîne alimentaire. Rien ne s'oppose à eux et le règne animal leur sert presque de marchepied, même si ce n'est qu'une expression, ils ne commandent pas les animaux en maître. Leurs nouveaux instincts ne troublent pas leur conscience, ils doivent abattre pour se nourrir. Avez-vous vu un seul lion tomber en dépression pour avoir dévoré une antilope? Bien sûr que non. Seuls les animaux les plus faibles succombent de façon prématurée à ce cycle naturel qui ne paraît barbare qu'aux humains sentimentalistes que nous sommes. Et vous voyez, là encore, c'est une question de point de vue. Oui, eh bien, point de vue ou pas, j'ai pas vraiment envie de me faire brouletter par un légatis affamé si je vais me balader en forêt. Moi, ne craignez rien, Frédéric, ne soyez pas comme ça, créateur de scénarios catastrophes. Les légatis ont l'avantage de pouvoir contrôler leurs instincts, contrairement aux animaux qui n'ont d'autre choix que de s'y soumettre. Et puis l'histoire nous livre quantité de récits de légatis, sans les reconnaître comme tels d'ailleurs. Je pense à la célèbre bête du Gévaudan, au XVIIe siècle, qui a défié le roi de France sans jamais tuer qui que ce soit, contrairement à ce que l'on croit. Mais cette bête du Gévaudan n'a fait que servir d'alibi à un tueur en série, qui a crédité ses forfaits sur le compte de l'animal, et sans jamais être inquiété. Ah, puis il y a aussi les bêtes de l'Auxerrois, mais du Vivarais. Elles aussi jamais capturées comme par hasard, et dont les descriptions ne sont jamais identiques, mais elles varient entre le loup et l'ours. Et puis notre siècle a aussi ses légatis cachés. Et les déséquilibrés mentaux exploitent leur signalement pour s'adonner à des meurtres rituels, dont les légatis sont totalement incapables. Mais toutes les bêtes qui défraient la chronique ne seraient alors que des légatis? Et non, pas nécessairement, Frédéric. Mais ce sont des faisceaux d'indices qui autorisent parfois cette conclusion. Prenez un mythe ou une rumeur qui fait intervenir une bête et étudiez ce qu'on en dit. Un loup est un loup. Un ours est un ours. Et les deux ne se ressemblent franchement pas. Si les histoires font état d'un animal discret, impossible à capturer, et dont personne n'est capable de fournir la même description, vous avez de grandes chances de tomber sur un légatis qui aura choisi l'appel de la nature. Ah bon? Mais alors le Yeti, c'est un légatis aussi? Et puis Bigfoot? Frédéric, les légatis ne sont pas la réponse joker à tous les mystères du monde. Mais vous avez des pistes à vous, la réflexion. Et la pleine lune dans tout ça? Parce que si les légatis sont à l'origine de légendes, par exemple sur les loups-garous, alors à quoi correspond cette action de la pleine lune qu'on retrouve d'ailleurs dans la plupart des histoires de monstres? Ah, Frédéric, le folklore est encore coupable de bien des exagérations. Alors il est vrai que la lumière renvoyée par la lune est polarisée, contrairement à celle du soleil. Et les légatis sont sensibles à cette polarisation, au même titre que certains animaux d'ailleurs, hein, comme les abeilles, le criquet ou encore la seiche, je crois. Un légatis qui s'expose à la pleine lune voit son pelage briller comme une fourrure de diamant. Mais ça n'affecte pas sa transition. Et vous le découvrirez aussi en temps voulu le jour où ils vous inviteront à danser par une nuit de super lune. Par sa volonté de discrétion, vous comprenez que le légatis aime sortir la nuit. durant laquelle sa vision d'ailleurs est aussi efficace qu'en plein jour, hein, comme un chat. Voilà pourquoi les anciens les croisaient plus fréquemment au détour d'une lune brillante, mais ne cherchaient pas plus loin. Les légatis sont éloignés des loups-garous sous tous les rapports, pour la simple raison qu'ils n'en sont pas. Oh là là là, tout ce que vous me racontez, c'est délirant. Un jour, il faudra que je tienne un bouquin sur tout ce que j'apprends sur ces légatis, c'est vraiment trop énorme. Mes chers amis, qui vous croirait? Au mieux, vous passeriez pour un bon conteur d'histoire, au pire, pour un fou prisonnier de ses délires. Un conteur d'histoire, mais pourquoi pas? Et je vais être franc, alors je vais changer de sujet, mais moi j'aime bien cette salle capitulaire. Et vous savez pourquoi? Non, mais je sens que vous allez me le dire. Eh bien, il y a des bancs partout. J'en peux plus l'adorer, ces deux bouts. J'aimerais m'asseoir un instant et vous poser quelques questions sur la nature des légatis. Eh bien, profitez de ma présence et interrogez-moi. Je suis là pour ça et je ne m'en lasserai pas. Nous nous installâmes sur le banc en bois massif qui faisait face au pupitre de lecture, ce qui nous contraignit à tourner le dos au cloître pour bénéficier de la luminosité prodiguée par la fenêtre qui donnait sur le parc. Mais le manque de coussins moelleux se faisait sentir avec cruauté. Guilhem et Kevin, ils ont été peu bavards. En fait, ils semblaient plutôt heureux de pouvoir partager leurs secrets avec moi. Et ils ne se sont pas trop étendus sur leur seconde nature, même s'ils m'en ont dit beaucoup, bien entendu. Je les ai vus, tous les deux. Je les ai même touchés, hein, une fois transformés, mais je n'ai pas trop osé leur poser des questions, des fois. Je ne savais pas comment amener certains sujets sans les indisposer. Mais vous pensez bien que je brûle d'envie d'en savoir davantage sur les capacités de ces légatis. Oh, cher ami, le temps éclaircira beaucoup de choses. En fait, croyez-vous vraiment en Dieu? Et quel rapport avec les légatis? Ben, j'imagine que par ma tenue, ma tunique et ce lieu, vous m'avez au premier coup d'œil attribué une étiquette confessionnelle qui vous a placé d'ailleurs quelque peu sur la défensive, mais... Ne dit-on pas que l'habit ne fait pas le moine? Ah, d'accord. Et si donc le moine que vous affichez avec votre vêtement n'est pas l'homme de religion que je crois, alors qui êtes-vous? Vous êtes un moine ou pas? Ne laissez pas des a priori dénaturer l'essence de notre rencontre. Peu importe les convictions qui animaient ceux qui ont sorti ces bâtiments de terre, ce sont avant tout des hommes qui se sont mis à l'ouvrage pour accueillir des légatis. Et c'est pour cela que je tiens à rencontrer les nouveaux meneurs en cet endroit. Ne vous imaginez pas que je suis venu bousculer vos certitudes sur la réalité, puisqu'elles le sont déjà depuis quelques jours. Et vous n'avez qu'effleuré le sujet, croyez-moi. Mais sous couvert d'une étiquette religieuse, qui m'épargne bien des questionnements indiscrets, l'ordre auquel j'appartiens n'a pour objectif que la préservation de la somme des connaissances collectées par les légatis. Alors, cher ami, soyez attentif à mes questions. Acceptez-vous de recevoir ce savoir sur les légatis, indépendamment de la source qui vous la communique? Mais écoutez, de toute façon, au point où j'en suis, je crois que faire marche arrière ne serait pas trop possible, quand bien même j'en aurais l'intention. L'abbé fut satisfait de ma réponse, bien qu'elle n'était pas totalement franche, et il manifesta sa joie par un sourire très prononcé. Ah, votre curiosité restera toujours plus forte, Frédéric. Et les légatis ne vous lâcheront pas comme ça, ils savent qu'ils peuvent compter sur vous. Mais ils viennent d'où à l'origine ces légatis? Enfin, je veux dire, c'est pas d'où ils viennent, c'est surtout la place qu'ils occupent dans la nature. À quoi? Est-ce qu'ils ont un rôle en particulier? Vous avez bien compris que ces légatis ont toujours existé, tout comme les gens aux yeux bleus, ou les gauchers. Mais c'est vrai qu'ils défient les règles établies en matière de séparation des espèces par cette espèce de pont qu'ils établissent entre l'espèce humaine et le règne animal. Le monde physique forme un tout, il n'existe pas de porte fermée. Toute forme de vie est reliée d'une façon ou d'une autre, à une autre forme de vie. La vie n'est qu'une chaîne aux multiples maillons et tous ne se ressemblent pas, loin de là. Les légatis sont à ce jour le moyen le plus extraordinaire offert à l'homme pour pénétrer la richesse du monde animal sans devoir utiliser de scalpel. Guilhem et Kevin, c'est vrai qu'ils m'ont parlé de ce bien-être qu'ils ressentent lorsqu'ils sont transformés, alors qu'ils continuent à garder la pleine conscience du fait qu'ils se sont des humains, hein, par ça. C'est ce mélange d'ailleurs que j'ai encore du mal à saisir, c'est particulier, hein, je peux pas dire autrement. Moi, c'est effectivement tout un nouveau rapport avec la nature qui s'installe. Leurs valeurs et leurs sensibilités sont relevées. Ils ne sont pas écrasés par les illusions de la moralité ou le mensonge de la pudeur, pas plus qu'ils ne sont touchés par les conflits des élites. Les légatifs fusionnent la chair et l'esprit sans que la corruption altère l'un ou l'autre. Extraordinaire, n'est-ce pas? Ce sont des puissances majestueuses et vous n'avez encore rien vu d'eux, vous n'avez fait que découvrir leur existence. Tout le règne animal courbe l'échine devant eux. Oh, monsieur, vous êtes vraiment poétique quand vous parlez. C'est impressionnant de vous écouter. Mais en toute sincérité, je suis désolé, mais je ne suis pas certain à 100% d'être rassuré quand vous me parlez comme ça. Mais ça, je suppose que c'est encore ma petite peur de l'inconnu, qui en est la cause. Alors bon, je m'y ferai, ne vous inquiétez pas. Mais quand vous parlez du règne animal, c'est vaste tout ça. Vous parlez aussi des poissons, par exemple? Parce que Guilhem ne m'a parlé que des mammifères terrestres. Enfin, en l'occurrence, surtout là, des animaux qui sont dans la forêt pour l'instant. Mon cher ami, nous ne savons pas tous deux, ni des multiples formes que cette aptitude permet à certains de revêtir. Mais posez-vous les bonnes questions. D'où viennent les mythes sur les sirènes scandinaves? Comment expliquer les apparitions de l'homme phalène au siècle dernier, qui semblait avertir chaque fois les populations d'une catastrophe imminente? Et c'est sans compter le généreux bestiaire médiéval qui pullule de créatures mi-hommes, mi-animales, comme la manticore. Ou encore les gargouilles et les chimères qui ornent basiliques et cathédrales. La culture du monstre est universelle, le légatif vit partout. Seule diffère la représentation qui en est faite. Mais aujourd'hui, nous avons la chance de mieux connaître ceux dont l'aptitude permet une incursion dans le monde des vertébrés. Alors laissons aux générations suivantes le privilège de découvrir d'autres déclinaisons de légatif. Interdit par ces explications, je me levai, posai mes deux mains sur le front et entrepris de faire les 100 pas dans la froide salle capitulaire. Je partais l'espoir qu'un peu de marche m'aiderait à tasser ce flux d'informations que je jugeais totalement surréaliste. Mais c'est du pur délire tout ce que vous me racontez. Toutes les légendes et les histoires de monstres tireraient aussi leur origine dans l'existence des légatis. Non, pas toutes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Certaines ne sont que des contes inventés pour faire peur aux enfants terribles. Il est parfois utile, mais il est surtout difficile de faire la part entre le réel de l'imaginaire. Mais, écoutez-moi bien, les faits sont là. Les légatis ont marqué toutes les civilisations. Fin de la lecture pour aujourd'hui. 18h59. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis dans les temps, je suis très content. Alors je vais vous répéter ce que je vous dis tous les soirs, que la rediffusion sera disponible dans quelques minutes sur la page Facebook d'Exilium, que toutes les autres rediffusions sont également disponibles et le resteront en permanence, que plus tard également je déposerai des podcasts au format MP3 sur le site de la page officielle d'Exilium, exilium.frédéricbellec.fr. Et puis je vais vous libérer pour ce soir. On se retrouve demain avec la quatrième partie du chapitre 11 où la conversation va se poursuivre entre l'abbé et Frédéric. Et puis, on espère que Frédéric va arriver quand même à ingurgiter tout ça. Ça fait beaucoup de choses, mais bon, faut qu'il fasse des efforts un petit peu. Alors, Marie-Madeleine, je te refais un coucou. Merci d'être présente. Oh, j'ai 30 secondes devant moi, là. Dis, je voulais prendre des nouvelles de votre petit chat depuis son passage chez le veto. Comment il va, le petit chat, maintenant? J'entends un petit peu, parce qu'il y a toujours un décalage entre mon direct et puis le moment où vous recevez le son et l'image. Alors, j'attends. J'attends la réponse de Marie-Madeleine. En attendant de recevoir sa réponse, comme je vous en avais informé déjà il y a quelques jours, Exilium va se terminer bientôt, puisqu'il reste encore dans cette quatrième partie du chapitre 11 demain. À partir de lundi, on va passer au chapitre 12, qui est relativement petit. C'est un chapitre qui est très basé sur l'histoire, sur les faits historiques. Donc si vous adorez l'histoire, vous adorerez ce chapitre 12. Et ensuite, les deux jours suivants, c'est le chapitre 13 qui sera divisé en deux parties, que j'aurai le plaisir également de vous lire. Et enfin, le jour tout à fait après, en fonction du temps disponible, ou peut-être que je réserverai cette place après la seconde partie du chapitre 13, je ferai un petit état de mes travaux littéraires et puis de ce que j'ai commencé à entreprendre au niveau écriture de bouquins, et puis ainsi vous annoncer les prochaines paritions. Pas tout de suite, hein, faut le temps que ce soit terminé d'écrire. Mais voilà, je vous parlerai un peu de tout ça, et puis ce sera l'occasion de parler si vous avez des questions supplémentaires. Alors je crois que Marie-Madeleine m'a répondu. Il va bien. Et ben voilà, Marie-Madeleine, je suis très heureux pour votre petit chat. Vous lui ferez des gros bisous, des gros câlins, des grosses gratouilles de ma part, même s'il ne sait pas qui je suis. Ah, je pense qu'il les acceptera tout autant. Allez, demain 18h30, on se retrouve, ça me fera plaisir, pour la dernière partie du chapitre 4. Je vous embrasse tous. Et surtout, portez-vous bien.